théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 1er juin 1989, ayant pour thème Marie.
Vous montrez dans le plan de Dieu le rôle de la femme et la femme par excellence, Marie. Je crois qu'il faut tout le temps bien regarder ces deux aspects. La Genèse, le début de la Genèse, nous montre la place de la femme dans ce premier plan de Dieu. Et spécialement, évidemment, le second récit de la création, où Dieu semble avoir oublié de créer la femme. Comme un oubli très curieux. Il crée l'homme, puis le laisse seul. Pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, un temps divin. Sans doute pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas tout. Il est bien le roi de l'univers, le roi des animaux, qu'il n'est pas tout. Bon pour l'homme d'être seul. Parole très très forte de Dieu, ça. Pour bien montrer que le plan de Dieu sur l'homme et la femme fait que Dieu veut que son chef-d'œuvre, qui est l'homme, soit complété par cet autre chef-d'œuvre, qui est la femme. Et que d'une certaine manière, la femme, qui est la Benjamine, la dernière, va tout achever. Vous voyez tout de suite, dès le début, ce rôle particulier de la femme, elle vient de l'homme, os de mes os, chair de ma chair, elle vient de l'homme, elle a été créée après l'homme, elle a été créée pour l'homme, mais elle est plus profondément créée pour Dieu, c'est-à-dire pour achever l'œuvre de la création de Dieu, pour permettre à l'homme d'atteindre plus profondément sa fin. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important à découvrir, puisque ça nous est donné dans la Genèse. Donc vous ne pouvez pas dire, on ne regarde plus la Genèse, ça n'a aucun intérêt. La création, ça n'a aucun intérêt. C'est la tentation d'aujourd'hui, de certains théologiens. Je me souviens avoir assisté comme ça, il y a déjà quelques années, à un petit congrès de théologiens à Rome. C'est surtout des Français, des Belges. Ils avaient invité un ou deux philosophes pour que ce soit plus intéressant, disait-il. C'est-à-dire pour que de fait, il puisse y avoir une discussion parce que les philosophes n'étaient pas d'accord avec eux. Et eux disaient très nettement, au fond, le traité de la création n'a rien à voir avec la théologie. C'est de l'ordre philosophique. Donc il ne faut pas le regarder. Et puis, c'est trop difficile aujourd'hui, avec tous les problèmes de l'évolution. Alors, si on supprime le problème de la création, vous voyez, le début de la Genèse n'a plus aucun intérêt. On le laisse tomber. C'est un mythe. C'est la tentation, c'est un mythe. C'est très vrai que le premier récit, que les récits de la création, les deux récits de la création, ont un mode symbolique. L'Église elle-même le reconnaît. Même un mode mythique. Le second récit a un mode tout à fait mythique. Quand on voit que Dieu plonge l'homme dans le sommeil, puis prend une côte de l'homme pour y former la femme, c'est merveilleux comme mythe. Mais c'est un mythe divin. C'est comme quand Dieu parle sur un langage symbolique. C'est un symbolisme divin. Et donc ça exprime quelque chose de réel. Je n'ai pas le droit de dire, ça n'a pas aucun sens. Ça exprime quelque chose de réel. Et c'est ce quelque chose de réel qu'il faut saisir. La forme mythique, l'expression mythique, c'est très intéressant. Parce que quand Dieu fait des mythes, il les fait bien. Il les fait même mieux que Platon. C'est quelque chose de très beau. Et on peut très bien se servir de ce forme mythe pour les enfants. Les enfants ont besoin d'un langage symbolique. Les enfants ont besoin de mythes. Il ne faut pas parler un langage scientifique aux enfants, ils ne comprennent rien. Et c'est desséchant pour leur cœur. Donc il faut prendre un langage mythique. En comprenant que c'est un mythe. Il ne s'agit pas de dire « Tu as fait comme ça ». Un jour, tu as retroussé ses manches, et puis s'est mis à pétrir de la terre, à souffler dessus, puis ça fait l'homme. Enfin, si vous dites ça, évidemment, c'est très beau, mais c'est sûrement pas passé comme ça. Et il n'a sûrement pas pris la côte de l'homme pour former la femme, sûrement pas. Mais c'est un langage mythique qui exprime quelque chose. La place de la femme dans la vision de Dieu. Puis, vous avez le péché, qui est la rupture de cet ordre premier. Ça, c'est sûr. Rupture de cet ordre premier. Où la femme, ayant péché plus que l'homme, plus profondément que l'homme, tous les pères de l'Église, je sais bien, ils étaient des hommes. Alors, c'est peut-être plus facile pour eux de le dire. Les pères de l'Église et saint Thomas soulignent que Ève a perdu la foi. Séducta est. C'est saint Paul qui dit ça. Elle a été séduite. Elle a perdu la foi. Tandis qu'Adam ne l'a pas perdu. Je sais très bien que c'est difficile de préciser. Mais je crois que c'est intéressant de voir ça, que la femme a péché plus profondément. C'est elle qui a pris l'initiative auprès de l'homme. Elle savait qu'elle pouvait tout obtenir d'Adam. Même de l'entraîner dans le mal, donc de la séduire, de le séduire. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble bien que la femme ayant péché plus gravement, Dieu a voulu reprendre tout dans un ordre nouveau qui met la femme en premier lieu, Marie. Et vous voyez, quand Jésus dit « femme », Jésus veut nous faire comprendre cela, que tout est repris en Marie. Et ça, je crois que c'est très très important. C'est pour ça que je reviens un peu là-dessus. On va prendre les deux extrêmes, parce que comme on n'a pas le temps de tout voir, on prend les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes qui font toujours comprendre, l'alpha et l'oméga. Dieu a tout repris en Marie. C'est très important de comprendre ça. Le mystère de l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception. C'est un mystère qui, pour nous, est très, très important. Et c'est sans doute à cause de ça que le Concile demande de tout reprendre dans une perspective de théologie de l'économie divine. C'est-à-dire une perspective de la grâce de Dieu qui progressivement prend tout. Comment la grâce est victorieuse de tout. Le père Maximilien Kolb, qui est un saint pour nous, évidemment ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, donc je ne peux pas construire une théologie à partir de ce que dit le père Maximilien Kolb. Mais le père Maximilien Kolb, mû par l'Esprit Saint, peut m'aider à mieux comprendre l'Évangile. Et le père Maximilien Kolb a cette petite réflexion qui m'a toujours beaucoup frappé. Le dogme de l'Immaculée Conception oblige le théologien à reprendre toute sa théologie. Alors je me suis posé la question, est-ce que la théologie de saint Thomas doit être reprise à cause du mystère de l'Immaculée Conception ? On doit se poser la question, puisque le père Kolb dit ça, et qu'il a été canonisé, pas à cause de ça, hein. Il a été canonisé à cause de son martyre, par rapport à la charité fraternelle. Il est mort martyr de la charité fraternelle, ce qui est au fond aussi tout à fait nouveau. Je me posais la question l'autre jour à propos de Jeanne d'Arc, est-ce que Jeanne d'Arc n'est pas martyr de la charité fraternelle ? On peut se poser la question. Alors, elle n'est pas martyre. On a dit la messe en blanc. Et pour Père Kolb, on dit la messe en rouge. C'est très curieux, c'est intéressant, du reste, de se poser la question. Point de vue idéologique. Parce que Jeanne, elle a offert toute sa vie. Son prochain. Ça, c'est sûr. Pour sauver son pays. Donc, c'est de l'ordre de la charité fraternelle. C'est de l'ordre du don de piété. Le don de piété vient transformer divinement l'exercice de la charité fraternelle. On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que le père Kolb a dit ça. Que le mystère de l'Immaculée Conception, pour lui, obligeait le théologien à reprendre toute sa théologie. En réfléchissant là-dessus, par rapport à saint Thomas, je crois que la théologie scientifique de saint Thomas ne bouge pas. Je ne dis pas ça parce que je suis dominicain. Je dis ça parce que j'y réfléchis. Et qui m'a bien semblé, du reste l'Église maintient, que la somme théologique de saint Thomas demeure très importante pour l'Église. Elle ne dit pas, c'est périmé depuis le dogme de l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception, vous voyez, ce n'est pas au sens strict un principe. C'est l'effet du mystère de la rédemption. C'est une grâce donnée à Marie à partir du mystère du cœur de Jésus. À partir de la plénitude de grâce de Jésus. Si donc c'est un mystère qui est le fruit, l'effet du mystère de la rédemption, seul un nouveau principe pourrait changer, un nouveau principe révélé dans la foi, pourrait changer l'ordre de la théologie scientifique de saint Thomas. Et non pas la révélation d'un effet. Si on prend science au sens très fort, ce n'est pas la découverte d'un nouveau fruit, d'un nouvel effet qui change l'ordre des principes. Rien du tout. Mais, par rapport à une théologie de l'économie divine, c'est différent. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Qu'au point de vue d'une théologie de l'économie divine, la révélation du mystère de l'Immaculée Conception donne une vision nouvelle sur Marie et fait comprendre comment Dieu a voulu tout reprendre à partir du mystère de l'Immaculée Conception. Donc, à partir de Marie. C'est donc la femme qui devient, comprenez bien, la mesure, le modèle de l'économie divine. Modèle et mesure immanente à la conduite de Dieu sur les hommes, parce que le modèle et la mesure de l'Église, c'est le cœur de Jésus. Les mesures extrinsèques. Je souligne ça pour que vous compreniez bien. Saint Thomas nous dit qu'il y a deux sortes de mesures. Une mesure extrinsèque et une mesure immanente. Mesure, c'est-à-dire aux exemplaires. Aux exemplaires et mesures. Par rapport à la théologie de l'économie divine, il y a deux grands aspects qu'il faut bien voir. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et l'Église, peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament. Mystère du Christ. Mystère de Marie. Marie enveloppe les deux. Elle est au terme de l'attente, elle est au point de départ de nous. C'est un fait, ça. Alors, voyez, ce que je veux dire, c'est que l'humanité en 2000, prépare le troisième millénaire, c'est le retour du Christ. Bah, Adam, puisque c'est compté à partir du Christ, c'est très curieux. Cette humanité compte le temps à partir du Christ. Il y en a tellement peu qui croient au Christ. Elle a quelque chose qui est très curieux. Quand j'enseignais la philosophie grecque à Fribourg, je me souviens, de mon émoi d'avoir acheté les maximes d'Épicure dans une bibliothèque d'édition. Et ces maximes d'Épicure étaient éditées à partir de la naissance d'Épicure. C'était l'an 2170. C'est curieux. On voit pas ça souvent. La Révolution française, d'heureuse mémoire, n'est-ce pas, dont on fête le bicentenaire. La Révolution française a voulu, à un moment donné, supprimer la date chrétienne. Ça n'a pas duré. C'est très curieux, ces choix-là. Je ne sais pas si à partir du bicentenaire, on commencera à dater autrement. C'est très, très curieux. Au fond, l'histoire de l'humanité, elle est marquée par la date du Christ. Même si on ne sait pas exactement à quel cause, laissons ça. Hein. Saint-Esprit fait ça pour que les hommes puissent se disputer et faire des thèses. Alors si c'est ça, on ne sait pas exactement. Mais il y a avant le Christ. Alors, l'apparition d'Adam, écoutez les savants, écoutez les réactionnaires, écoutez le bon sens, c'est très très difficile, on ne sait pas. Pour les savants, ce qui est sûr, c'est que Adam, je ne peux en parler que dans la foi. Adam n'a aucun sens pour le savant. Il l'ignore. C'est X pour le savant. X. Il y a eu sûrement un premier homme. Mais quand moi je parle d'Adam, j'en parle en croyant. Et en pensant. Adam, c'est quelqu'un à qui Dieu a confié la responsabilité de toute l'humanité. Et Ève aussi. Été unis dans cette responsabilité. Donc, il y a le temps avant le Christ, il y a le temps après le Christ, jusqu'au retour du Christ. Et je ne sais pas comment ça se partage. Mais ce qui est sûr, dans un regard de sagesse divine, c'est que le Christ est roi. L'histoire de l'humanité est commandée par le Christ. C'est en dirigeant, en commandant le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament que Dieu prépare 2000 ans avant Jésus. Dieu prépare. Très curieux. Il y a eu une préparation très particulière de l'humanité dans le peuple d'Israël. Et ensuite, Dieu prépare l'humanité au retour du Christ en gouvernant l'Église. Donc, vous voyez, il y a deux moments tout à fait privilégiés dans cette théologie de l'économie divine. Le peuple de Dieu et l'Église. Le mystère du Christ, le Christ, lui, il est conduit par l'Esprit Saint. Il est conduit comme le Fils bien-aimé du Père. Donc, il n'a aucune conduite extrinsèque à lui, si ce n'est la très sainte Trinité. Il est chef de l'humanité. Il est roi de l'humanité. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Vous savez bien la vision d'Apocalypse. Donc, il est au-dessus de tout. On voudrait bien le supprimer, hein, mais impossible. Il est roi des rois. Alors, ce que je veux dire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir que le Christ est mesure extrinsèque. Et quelle est la mesure de l'histoire des hommes intrinsèque? C'est Marie. Je veux bien comprendre ce que c'est que cette théologie de l'économie divine. Le principe absolu, c'est le Christ. Mesure extrinsèque. Et la mesure immanente, c'est Marie, la femme. Je crois que ça, c'est très important. Il s'agit de comprendre qu'une théologie implique un ordre. Tout ordre implique une mesure. Et si on ne connaît pas cette mesure, on ne connaît pas l'ordre qui est impliqué dedans. Ça, je crois qu'on peut tous se comprendre dans la foi. Mais c'est très important, parce que ça nous oblige d'avoir deux points de référence. L'un extrinsèque, qui est le Christ, l'autre immanent, qui est Marie. Alors c'est ça que je voudrais vous montrer. Bon, le Christ, parce qu'il est Dieu. Qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité où il y a eu un homme Dieu. Il y en a beaucoup qui en ont eu la nostalgie. À des quantités. Ce serait intéressant d'intituler toutes les grandes nostalgies pour l'homme de se faire Dieu. Vous voyez, les Césars. On aurait presque même de notre temps encore de ces nostalgies-là. On voit très bien. C'est très très curieux. Toutes ces nostalgies d'être Dieu. Il y a les Césars qui ont, et puis alors les grands chefs religieux. Les grands chefs religieux ont voulu atteindre Dieu, être Dieu. Pour nous croyants, croyants comme chrétiens, nous savons qu'il n'y en a qu'un, un seul Seigneur des Seigneurs, le Christ. Et c'est lui qui donne à toute l'humanité son sens. L'humanité est parfaitement intelligible que dans la lumière de Jésus. C'est en lui que l'humanité découvre sa fin, d'une manière ultime. L'éthique chrétienne, c'est dans le Christ que je découvre le sens de la mort, le sens de la vie bienheureuse, le sens de l'amour, le sens de la lumière et de l'intelligence et de la contemplation. Il n'y en a pas d'autre. Je peux dire que ça suffit. Oui. Mais Dieu a voulu qu'il y ait dans l'humanité, parmi les créatures, une créature qui soit mesure immanente de toute l'humanité. Et c'est la femme. Et c'est Marie. Qui est la mesure immanente de toute l'humanité. Et c'est en référence à elle que je découvre le sens de la créature. Jésus ne me donne pas le sens de la créature, puisqu'il est Dieu. Jésus ne me donne pas le sens d'une créature qui est dans le devenir. Il l'a assumé, il l'a transformé. Mais dès le point de départ, Jésus est dans la plénitude de grâce. Tandis que Marie, elle est mesure immanente de toute l'histoire des hommes. De toute l'histoire des hommes. Pas seulement des femmes, mais de tous les hommes. C'est elle pour ça que c'est elle à qui est remis le fait de dire « jette ta faucille ». Parce qu'elle est mesure immanente de toute l'humanité. Elle a une responsabilité très très mystérieuse qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Elle est reine. Le roi extrinsèque est la reine toute proche. Elle est mère et reine. Et c'est pour ça qu'elle est toute proche. Responsabilité à l'égard de l'Église et par l'Église de toute l'humanité. Et d'une manière très particulière de cette partie-là de l'humanité. L'attente du retour du Christ. Parce que toute la partie avant l'arrivée du Christ. D'une certaine manière, Marie en est le fruit. Donc, c'est pas la même chose. Elle en est le fruit. Tandis que dans la partie de l'attente du retour du Christ, Marie en est la mesure. Vous voyez, c'est très intéressant de préciser ça. Le rôle de Marie par rapport à la partie par rapport à la partie de l'humanité d'Adam à la venue du Christ. Et la partie de l'humanité au retour de Jésus, il y a un rythme différent. La vision de la sagesse de Dieu. Il y a un rythme différencié. C'est pas le même rythme. D'un côté, c'est une grande montée. Une grande montée, on ne peut pas nier. D'Adam à Marie. Et Marie est le fruit de toute cette montée. Tandis qu'à partir du mystère de Jésus, de la résurrection, de la descente du Saint-Esprit, du don de l'Esprit Saint, l'Église, et toute l'humanité présente dans l'Église, attend le retour de Jésus. Et Marie est vraiment mesure de l'humanité dans cette seconde partie. Et je crois qu'on peut dire que c'est pour qu'elle soit mesure immanente de l'Église et de l'humanité en attente du retour du Christ. C'est pour cela qu'elle est immaculée. Il y a là quelque chose de très très grand à comprendre, à saisir au point de vue théologique. Le mystère de l'Immaculée Conception, si je le regarde bien, c'est la grâce chrétienne, la grâce de Jésus crucifié, qui reprend toute l'humanité dans une miséricorde de prévenance. Comprenons bien. Il y a deux espèces de miséricorde. Une miséricorde de rachat et une miséricorde de prévenance. Racheter quelqu'un, c'est très beau. C'est très grand. Empêcher quelqu'un de tomber, miséricorde de prévenance, c'est encore beaucoup plus grand. Vous voyez, ça peut arriver dans la vie, un petit gosse qui court sur un haut plateau. Et vous savez, c'est la fin du haut plateau, il y a une falaise qui dégringole, abrupte. Oui, ce petit gosse qui court tout proche. Vous, vous savez qu'il y a cette chute possible pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a deux manières. Il y a la manière d'aller plus vite que lui et de le prendre par la peau du dos et dire « Hop !» Surtout, ne tombe pas. Ou bien au contraire, vous faites un détour. Je vais être là pour le recevoir. En bas de la falaise. Deux stratégies. De miséricorde et d'amour. C'est tout à fait différent. Laquelle est la plus grande? Évidemment, c'est de pouvoir prévenir. Prendre pas la peau du dos. Pour l'empêcher de tomber. Tandis que être là, oui, vous laissez la chute. C'est curieux que Dieu a eu cette double tactique à l'égard des deux Ève, des deux femmes. C'est à l'égard des deux femmes. C'est curieux du reste, hein, vous voyez que c'est les deux femmes. Ève et Marie. C'est pas à l'égard de l'homme. La femme a toujours quelque chose d'extrême. Toujours. Toujours un peu. L'homme dira toujours, attention, attention, va pas si vite, non, réfléchis un peu, fais tout le temps. L'homme est raisonnable et la femme est impulsive. On le sait, c'est du reste sa qualité, c'est, tu as voulu que ce soit comme ça. Et c'est à l'égard de la femme qu'on voit ces deux tactiques de Dieu, de l'économie divine. Puisque le concile nous demande de le faire, il faut le faire. Et de comprendre ces deux stratégies. À l'égard d'elle, il la laisse tomber, mais il est là pour la recevoir. Mais elle tombe. Tu aurais pu intervenir entre le serpent et Ève. Et puis, grand éclair. Dire à la femme, attention, tu vois pas. Non, tu as laissé. C'était le septième jour, Dieu se reposait. On l'a oublié. Il s'est reposé pour laisser la femme très libre. Il a laissé. Très mystérieux, c'est infiniment mystérieux. C'est permission de Dieu, cette permission de Dieu. Il a laissé la femme. Libre. Et la femme est tombée. Et quand elle est tombée, Dieu ne l'a pas laissée longtemps par terre. Il a tout de suite promis un sauveur. Tout de suite. Mais il était là donc pour être l'hôpital de la femme. Miséricorde qui la reprend. Vis-à-vis de Marie, une tactique toute différente. Miséricorde de prévenance. Dans sa sagesse, Dieu la prend d'une manière telle qu'elle est enveloppée de la grâce du Christ, grâce chrétienne. Alors, est-ce que c'est le propre de la grâce chrétienne de pouvoir être une grâce prévenance? Et le propre de la grâce de justice originelle, d'être une grâce qui permet la chute. Je crois qu'en dernier lieu, on arrivera à ça, vous voyez. De voir que dans la grâce chrétienne, il y a quelque chose de très particulier. Parce que c'est une grâce de surabondance d'amour. La grâce chrétienne, c'est la grâce mesurée par le mystère de l'union hypostatique. Et donc c'est une prévenance extraordinaire. La plus grande des prévenances. L'éternité qui enveloppe le temps et qui enveloppe tout le mystère de Jésus. C'est ça le mystère de l'union hypostatique. C'est la nature humaine dans le Christ est portée par la grâce et par ce mystère de l'union hypostatique. Et la grâce chrétienne provient comme un effet de cette grâce de l'union hypostatique. Toujours, c'est un fait, ça nous est révélé. Le Père a tellement aimé cette petite enfant dès sa conception, dès la création de son âme, en Anne, sa mère. Il a tellement aimé que elle est totalement enveloppée d'une grâce plénière, de pure gratuité. C'est de la pure gratuité. Marie n'a rien fait pour mériter ça. Grâce prévenante de pure gratuité qui permet à Marie de dire « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est comme ça que Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est pas seulement « Je suis », mais « Je suis l'Immaculée Conception ». Quelque chose d'extraordinaire, d'inouï. Et ce n'est pas seulement dire je suis luthérien, mais je suis l'Immaculée Conception. Et à travers ça, je découvre comment Dieu a tout repris en elle. Voyez, pour qu'elle soit la mesure immanente de l'Église, pour qu'elle soit la mesure immanente de toute l'humanité, de tout le gouvernement de Dieu sur l'humanité, il faut qu'il y en ait quelque chose qui fait qu'elle est la femme, la créature par excellence, plus parfaite que les chérubins et les séraphins, puisqu'elle est reine des anges, par son mystère de l'Immaculée Conception. C'est extraordinaire, ça. C'est inouï de voir ça. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et parce que ça nous dépasse complètement, voyez, les théologiens, à la place de contempler, critiquent. Les hommes ont diminué la vérité. C'est vrai, il faut être tout petit, il faut être très humble pour laisser Marie passer devant. Et considérer que la mesure de la conduite de Dieu sur l'humanité, c'est la femme, Marie. Parce que par cette plénitude de grâce, Dieu reprend tout en elle. C'est inouï. Création est reprise en elle dans cette communication plénière de la grâce. Je ne peux plus séparer en Marie création et recréation. Je ne peux plus séparer en Marie la création de son âme et le don de la grâce. Je dois les distinguer. Ah, il faut les distinguer. Marie a une nature humaine comme la nôtre. Marie n'est pas Dieu. Donc elle est une petite créature comme nous. Et une petite créature qui a eu plus conscience d'être créée que nous. Parce que nous, il y a l'orgueil. Et l'orgueil, conséquence du péché originel. Et l'orgueil nous empêche de regarder que nous sommes des petites créatures totalement dépendantes de Dieu. Ça me met tellement de peine d'adorer. Marie, au contraire, a adoré plus que n'importe quelle autre créature. De façon plus radicale, parce qu'elle acceptait d'être dans cette totale dépendance. Dépendance absolue. Donc, petite créature, plus consciente qu'aucune autre. Plus consciente que les anges. création plus aimante que celle de tous les anges, les archanges et les chérubins. C'est merveilleux de voir ça, vous voyez. Parce que l'âme de Marie est brûlante d'amour par son adoration. À nous, notre âme n'est pas brûlante d'amour par notre adoration. Hein. L'adoration type qui mesure l'adoration de tous les autres saints. Et de tous les autres saintes, c'est l'adoration de Marie à l'égard de son Créateur. Une adoration d'une limpidité qui fait qu'elle est totalement entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Cet acte créateur de son âme est porté dans la plénitude de grâce qui lui est donnée. Donc c'est tout de suite une adoration en esprit, en vérité. Tout de suite. Et cette adoration est portée dans cette plénitude de grâce. Et cette plénitude de grâce, elle vient de Jésus, qui n'est pas encore là. Cette plénitude de grâce vient du mystère de la croix. C'est toujours ce qu'il faut dire. Parce que ça, les réformés ne savent pas. Je me souviens d'une fameuse discussion. C'était à Lausanne. C'était une discussion merveilleuse. J'étais invité par le professeur de philosophie de l'université de Lausanne. C'était un ami. Lui me disait toujours mon père. Il était réformé. Il me disait toujours mon père. Et son épouse me disait toujours monsieur. Dans l'intimité, c'était très amusant. Il y avait un mur de droite, un mur de gauche. Elle me dit toujours, monsieur, parce qu'elle était partienne. Très, très forte. C'était costaud. Alors, un beau jour, ça devait éclater un jour. Un beau jour, toujours à la fin du repas, au café, elle dit, mais, monsieur, vous qui faites de la philosophie, vous qui êtes intelligent, vous acceptez le dogme de l'Immaculée Conception. Oh, c'est contraire à toute écriture. On est né dans le péché. Et c'est dit. Si Marie n'est pas née dans le péché, on l'aurait dit. On est né dans le péché. Tous les hommes sont nés dans la désobéissance. Alors, en proclamant le dogme de l'Immaculée Conception, vous diminuez le mystère de la rédemption. Ce que l'Église dit à propos du dogme de l'Immaculée Conception. Marie ne retourne pas en justice originelle. Marie ne retourne pas au paradis terrestre. Si Marie était retournée au paradis terrestre, je suis d'accord avec vous. Mais Marie ne retourne pas au paradis terrestre. Là, vous n'avez pas compris. Marie est plus que moi, et plus que vous, celle qui reconnaît qu'elle est sauvée par le Christ. Et si elle est sauvée par le Christ, en proclamant le mystère de l'Immaculée Conception, je ne diminue en rien le mystère de la rédemption. Au contraire, je montre que le mystère de la rédemption est capable, non seulement de réparer les brèches, mais est capable de tout reprendre radicalement. C'est ce qui s'est passé en Marie. J'ai essayé de lui expliquer ce que j'essaie de vous expliquer. Comment tout est repris en elle radicalement par la grâce chrétienne et pas le retour au paradis terrestre. Elle a écouté. Elle m'a dit, ah mais si c'est ça, oh, c'est tout à fait autre chose. C'est magnifique. Je dis oui, c'est magnifique. Je ne dis pas qu'elle était chrétienne, catholique à partir de là, mais il y avait un pan de mur qui dégringolait. Parce qu'après, c'est le pape, vous comprenez. Là, c'est encore une autre histoire. Et c'est plus difficile parce que c'est pas l'Immaculée Conception. Mais c'est très important de comprendre ça. D'avoir l'intelligence de ce mystère avec les conceptions. Parce que il montre combien Marie est liée au Christ. Combien le mystère de la croix reprend tout. Le Père a remis à Jésus toute autorité. Ça ne veut pas dire que Jésus crée une nouvelle humanité. Non. L'humanité sainte du Christ n'est pas l'instrument d'une nouvelle création. Mais la très sainte Trinité, dans son unité, reste créatrice de l'humanité, chef-d'œuvre de toute la création. Mais ce chef-d'œuvre est appelé à une vie divine, surnaturelle, tout de suite, même avant le péché, même pour les anges. Tous ont été créés dans la grâce. Tous. Donc c'est pas nouveau ça. Ce qui est nouveau, c'est le caractère propre de cette grâce qui est donnée dans une plénitude nouvelle liée au mystère de la croix du Christ. Et c'est dans ce mystère de plénitude de grâce que la nature humaine en Marie, l'âme humaine en Marie, a été créée par Dieu. Enveloppée de cette miséricorde prévenante, enveloppée de cette plénitude de miséricorde qui fait que la nature humaine en Marie, l'image de Dieu en Marie, l'image du Père, du Fils, de l'Esprit Saint en Marie, prend une limpidité unique que Marie saisit, que Marie comprend dans sa foi, dans son espérance et son amour. C'est ça qui fait comprendre cette réponse de Marie à la miséricorde du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint sur elle. Elle se consacre corps et âme par l'adoration et dans la contemplation. Elle se consacre entièrement. Le chef-d'œuvre de Dieu reprend tout en se consacrant totalement, en étant plus qu'à Dieu. Vous voyez, dans le plan de Dieu, c'est quand même très important de voir cette révélation de l'Immaculée Conception. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'Esprit Saint nous a révélé ça tardivement. Et que c'est l'Église qui l'a révélé. C'est pas dit directement dans l'Écriture. Mais dans l'Écriture, il est dit que l'Esprit Saint doit nous conduire à la vérité tout entière. Dans l'Écriture, il est dit, et Jésus le dit, qu'il ne peut pas tout nous révéler. Donc il laisse ce soin à l'Église. C'est ça qui est très touchant. C'est que le grand mystère de l'économie divine, qui est le mystère de l'Immaculée Conception, totalement dépendant du mystère du Christ et de la rédemption, ce n'est pas l'Esprit Saint directement qui nous le révèle. Oui, c'est toujours lui. Mais par l'Église. Comme c'était l'Église qui devait nous révéler, l'Église qui est faite de nous, l'Église c'est nous, ce sont des créatures sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'était l'Église qui devait révéler ce grand mystère de l'Immaculée Conception. Une fois que vous avez compris Tu vois, une fois que vous avez saisi la grandeur et la profondeur de ce mystère de l'Immaculée Conception, qui met Marie si proche de la très sainte Trinité, si proche du cœur de Jésus, et si proche du mystère de la très sainte Trinité, si proche du Père, la gratuité de cette miséricorde, si proche du Verbe, parce que avec lui, elle reçoit tout du Père, si proche de l'Esprit Saint, elle est liée comme l'Esprit Saint au Père et au Fils. Alors on comprend cette proximité étonnante. Il y a un théologien franciscain, ils sont des audaces, c'est franciscain, les dominicains n'ont pas. Hein. Un théologien franciscain au 15e siècle qui dit que Marie est complementum totius trinitatis. Quand j'ai lu ça dans le texte de ce théologien, ce n'est pas très répandu, on n'ose pas le répéter. Marie, en raison du mystère de l'Immaculée Conception, elle est le complément de toute la très sainte Trinité. Complementum totius trinitatis. Elle est comme le miroir. C'est le miroir, c'est beau. Quand vous arrivez à Paris le Monial, les jours, il fait très clair, il fait très beau. Vous arrivez par ce petit fleuve et vous voyez la basilique qui se reflète dedans. Complementum de la basilique. Elle est le miroir de la très sainte Trinité. Et toute la très sainte Trinité se mire dans Marie. Et sans ça, elle est le complément pour nous. Et à travers elle, nous découvrons le mystère de la très sainte Trinité. Et ça, c'est vrai. Dans l'économie.
Thank you.
beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Marie est la femme. Elle n'est plus seulement la mère de Jésus. Parce que Jésus, dans sa vie apostolique, commence sa vie apostolique pour tous les hommes, pour le peuple d'Israël et pour tous les hommes. C'est l'universalité du sacerdoce du Christ. Et Marie apparaît tout de suite là, dans ce caractère universel. Femme. Elle est la première qui suit Jésus dans sa vie apostolique, selon l'évangile de Saint Jean. Regardez le petit texte. Après Cana, Marie ne retourne pas à Nazareth. Elle suit Jésus à Capharnaüm. On ne sait pas quand les autres sont venus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de Cana, Marie entre dans la vie apostolique de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le veut. Jésus a écouté sa demande. Femme, que me demandes-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est très extraordinaire. Marie aurait pu être uniquement présente à la croix. L'heure de Jésus. Non. Il faut qu'elle soit présente avant. Il faut qu'elle soit présente dans toute sa vie apostolique. Je crois que la demande de Marie à Cana, c'est la demande de la femme qui porte les misères de son peuple. Et les misères de son peuple sont représentées d'une façon symbolique, d'un symbolisme divin, par le fait qu'il manque de vin à des noces. Dans un pays où il y a du vin, vous voyez ça? Une noce en Bourgogne, où il manque de vin. Ça peut exister pendant la guerre, mais pas en temps normal. Et Marie est là, qui porte la misère de son peuple. Ils n'ont plus de vin. C'est pas seulement le vin des noces, c'est le vin de la parole de Dieu. C'est le vin de la sagesse. La sagesse invite, c'est identique de la sagesse. Elle donne du vin en surabondance, la parole de Dieu. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus comprend très bien. Jésus ne vient pas seulement donner la parole, il vient donner le nouveau vin qui est son sang. Et dès le point de départ, la femme demande le sang du Christ sans le savoir. C'est la différence avec l'Annonciation.